Et avec un petit peu de retard, c'est Mathieu Laurent pour le journal de la rédaction. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Le régime syrien n'en fait pas publicité, mais les faits sont là. Cessez-le-feu signé par des représentants de Damas et de Daesh au sud de la capitale syrienne et premières évacuations constatées. Reportage dans cette édition, dans un des bureaux de vote de Caracas, affluence bien mince pour cette présidentielle si controversée. Analyse également de Paola Vasquez, les Amas, spécialiste du Venezuela. Enfin, pas de guerre commerciale entre la Chine et les USA. Consensus trouvé à Washington, correspondance dans cette édition de Pékin d'Angélique Forest. Le régime syrien et l'organisation État islamique ont donc conclu un cessez-le-feu dans le sud de Damas. Le 19 avril dernier, les troupes loyalistes avaient intensifié leurs attaques sur des positions tenues par des djihadistes retranchés dans le camp palestinien de Yarmouk ainsi que dans les localités de Hajar al-Aswad et Tadamoun. Un cessez-le-feu en vue d'évacuation. Elles auraient d'ailleurs commencé. Les précisions à Beyrouth d'Omar Waman.
Les médias officiels syriens, habituellement prompts à relayer la propagande du régime de Bachar el-Assad, font preuve d'un mutisme total dans cette affaire qui pourrait bien embarrasser le régime de Damas, qui a toujours nié l'existence de négociations avec Daesh. Mais les djihadistes, un petit millier, acculés dans ce camp de Yarmouk, prévu pour accueillir des réfugiés palestiniens, mais également à Tadamoun, quartier voisin, n'avaient pas d'autre choix que de capituler après plus d'un mois de bombardements intensifs. Yarmouk et Tadamoun, à 7 km à peine du centre de Damas, ne sont plus qu'un champ de ruines où survivent plusieurs centaines d'habitants. Un cessez-le-feu, entré en vigueur hier, aurait ouvert la voie à une évacuation. Des bus, au moins 6, ont été vus cette nuit à bord des civils, en majorité des familles de djihadistes. D'autres bus devraient suivre dans les prochaines heures pour prendre la destination du sud de la Syrie vers Badia, près de la Jordanie, une zone désertique où Daesh est encore implanté. Ces évacuations constitueraient, si elles se poursuivent, une grande victoire pour Bachar el-Assad, qui contrôlerait ainsi la totalité de Damas et de sa banlieue, une première depuis 2012.
Omar Waman à Beyrouth, sur un autre front syrien dans la province de Deir ez-Zor. La coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes, soutenue par les troupes américaines et françaises, affronte des recrues de Daesh. Combat acharné, notamment dans les environs du village de Ajin. Quand Recep Tayyip Erdogan tient meeting à Sarajevo, le président turc ne néglige aucun gisement de son électorat en vue des présidentielles et législatives programmées au 24 juin prochain. La presse bosnienne s'en amuse de cette opération de séduction quand elle ne s'inquiète pas des velléités d'Ankara. En effet, la Turquie s'intéresse aux Balkans et Recep Tayyip Erdogan, privé de meeting au sein de l'Union européenne, fait là un pied de nez à Bruxelles. Laurent Rouy est à Sarajevo.
15 000 personnes, principalement des Turcs vivant dans les différents pays de l'Union européenne, mais aussi des musulmans de Serbie et de Bosnie, ont assisté au meeting de Recep Tayyip Erdogan à Sarajevo. Le président turc avait choisi la capitale bosniaque pour montrer aux Européens et à la diaspora turque qu'il peut organiser un meeting électoral en Europe sans le feu vert de Bruxelles. La Bosnie était le seul pays où une telle manifestation était possible parce que les leaders musulmans bosniaques au pouvoir souhaitent développer les liens avec Ankara. La Turquie est très présente économiquement en Bosnie et Erdogan a promis la construction rapide de deux autoroutes. Depuis plusieurs années, la Turquie s'intéresse à la Bosnie et aux autres pays des Balkans. La région faisait au XIXe siècle partie de l'Empire ottoman. Des liens culturels existent encore et Erdogan, très incisif depuis quelques années sur la scène internationale, cherche à recréer une zone d'influence pour la Turquie. Cette offensive diplomatique, très critiquée par l'opposition en Bosnie, vient concurrencer les intérêts européens. Cette pression turque de plus en plus visible a d'ailleurs été discutée au sommet Union européenne-Balkans de Sofia jeudi dernier. En venant en Bosnie à la pêche aux voix de la diaspora, Erdogan marque un point dans chacun de ses domaines.
300 personnes dans les rues de Saint-Pétersbourg pour dénoncer les tortures pratiquées par les services spéciaux russes à la mi-avril. Une enquête a été ouverte dans la deuxième ville de Russie pour établir les circonstances du suicide présumé en prison d'un entrepreneur. Son avocate prétend qu'il a été torturé et tué. Encore un scandale qui abîme l'image de l'église chilienne. L'archevêché de Rancagua a en effet déposé une plainte contre un prêtre accusé de conduite sexuelle inappropriée envers une paroissienne. Avant-hier, les 34 évêques du pays démissionnaient en bloc pour ne pas avoir géré de manière appropriée les dénonciations de nombreux abus sexuels. La présidentielle au Venezuela, il n'y a aucun avantage qui tienne quand un peuple est déterminé à changer, lance le leader de la plateforme de l'unité démocratique, refus catégorique de participer à cette élection. Les bureaux de vote ont ouvert à midi hors de Paris. Le président Nicolas Maduro est loin de faire l'unanimité et pourtant, il va remporter ce scrutin. Julien Gonzalez de RFI suit pour France Culture le déroulement de cette présidentielle vénézuélienne.
École Manuel Palacio Fajardo dans le quartier du 23 janvier à l'ouest de Caracas. C'est ici qu'Hugo Chavez avait l'habitude de voter, un bureau de vote symbolique de la révolution, mais ce dimanche matin, c'est loin d'être la cohue, comme le raconte Hilda Hernandez.
À peine je suis arrivée, c'était bon, ça ne m'a pas pris 3 minutes pour voter, il y avait peu de monde, 4 attendaient pour voter avec moi. Lors des présidentielles, normalement, il faut toujours faire la queue, mais ce dimanche, il y a peu de monde. Je vote ici depuis des années, à l'époque de Chavez, il y avait une file d'attente énorme, jusque là-bas. Et puis la dernière présidentielle de 2013, il y avait aussi du monde, mais cette fois-ci, non.
Au lycée Miguel Antonio Carro, où a voté plutôt Nicolas Maduro, il n'y a pas foule non plus, mais pour Ciro Maestri, c'était important de venir voter pour soutenir une nouvelle fois Nicolas Maduro.
Sincèrement, comme je suis arrivé tard ce matin, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de queues, mais c'est calme. Je ne sais pas ce qu'il se passe, les gens semblent s'abstenir. Pour moi, Nicolas Maduro a fait un bon mandat. L'impérialisme lui met des bâtons dans les roues, mais il se bat, il fait tout ce qu'il peut. Ses adversaires n'ont aucune chance, il ne lui arrive pas à la cheville.
Les autorités assurent que la journée se déroule normalement et les résultats devraient être connus dans la soirée.
Voilà, reportage de Julien Gonzalez de RFI. De quoi souffre au juste le peuple vénézuélien? Élément de réponse avec Paola Vasquez-Lezama, chargée de recherche au CNRS et spécialiste du Venezuela. Elle répond aux questions de Laurélie Carive.
La principale inquiétude, disons, des Vénézuéliens, c'est la survie. Littéralement, il y a un exode massif, surtout des milieux populaires qui sont en train de traverser à pied la frontière vers la Colombie et le Brésil, car le manque de nourriture et de médicaments affecte la population d'une manière très forte, assez inimaginable pour un pays tel que le Venezuela il y a quelques années. Il faut retenir que la chute a été très forte dans les niveaux de vie des gens. Ce n'est pas une question uniquement de déclassement social, c'est vraiment une paupérisation massive de la population vénézuélienne qui est en train de fuir pour essayer de survivre.
Comment s'est opéré le basculement? Maduro, c'était l'héritier désigné de Chavez. Et au fil des années, il a resserré le pouvoir, il a concentré le pouvoir vers lui.
En fait, il faut retenir que cette crise, elle était évitable en 2014. En 2014, Maduro avait la marge des manœuvres économiques pour éviter une situation pareille. Mais il a laissé continuer un système de détournement des devises de la rente pétrolière sans jamais investir ce qui était nécessaire pour que l'industrie pétrolière aussi se récupère. Aujourd'hui, l'industrie pétrolière vénézuélienne produit moins de la moitié qu'elle produisait lorsque Chavez est arrivé au pouvoir. Et ça fait que même si le prix du baril monte à 100 $, comme l'envisagent les analystes, la situation vénézuélienne ne verra pas une amélioration avec la montée du prix du baril. Il y a beaucoup d'autres explications. Il y a une énorme corruption assez inimaginable qu'on n'a pas encore compris toute sa dimension, tellement il y a des facteurs impliqués.
Paola Vasquez-Lezama avec Laurélie Carive. Selon le quotidien espagnol El País, Madrid a l'intention de laisser la Catalogne sous tutelle. Madrid n'a pas du tout apprécié la nomination au sein de l'exécutif catalan de personnalités incarcérées en Espagne ou bien en fuite à l'étranger. Pékin et Washington ont fait la paix. Ils ne se feront pas la guerre à coups de taxes douanières prohibitives. Les États-Unis vont ainsi pouvoir réduire leur abyssal déficit commercial avec la Chine. Consensus scellé après des mois de tension. Pékin, Angélique Ford.
Cette annonce intervient après une longue semaine de négociations à Washington entre la délégation chinoise dirigée par le vice-premier ministre Liu He et le secrétaire américain au Trésor. Concrètement, Pékin promet d'acheter significativement plus de biens et de services américains dans un but, réduire le déficit commercial des États-Unis. La Chine lâche du lest, fait une promesse à Washington. Pour autant, Pékin présente cet accord comme une petite victoire. D'abord parce que ce consensus calme le jeu, apaise les tensions. C'est exactement ce que les négociateurs chinois étaient venus chercher. Ensuite, parce que Pékin parvient à ne toujours pas prendre d'engagement chiffré. La Maison-Blanche veut à tout prix que la Chine promette d'acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains. Ce chiffre n'apparaît pas dans le communiqué publié conjointement par Washington et Pékin. Les médias chinois saluent ce consensus. L'agence de presse Chine Nouvelle le qualifie même de gagnant-gagnant. Depuis le début de la crise entre les deux plus grandes économies de la planète, la Chine n'a cessé de le marteler. Elle ne veut pas de guerre commerciale avec les États-Unis. En ce sens, les négociateurs chinois en visite à Washington semblent avoir accompli leur mission.
Et si nous avions affaire à une Pax Romana, et si l'Europe allait souffrir de ce pacte de non-agression américano-chinois? C'est en tout cas l'approche de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, était ce matin chez nos confrères d'Europe 1.
Est-ce que nous acceptons que les États-Unis soient le gendarme économique de la planète? Est-ce que nous acceptons une domination sans partage et sans respect des règles internationales? La réponse européenne doit être clairement non. Et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a déjà lancé un certain nombre de propositions. Et nous, avec le président de la République, nous refaisons nos propositions pour renforcer la souveraineté économique européenne. Le renforcement du fameux règlement de 1996 qui permet de protéger nos entreprises, qui par exemple nous permettrait de prendre à notre charge l'éventuel prix des sanctions payées par les entreprises et qui pourrait être payé par l'Union européenne. Il y a une deuxième proposition que nous faisons qui est majeure, c'est d'avoir des systèmes de financement autonomes. Que l'Europe ne dépende plus du système financier et bancaire américain pour financer les entreprises qui veulent investir à l'étranger, en Iran ou ailleurs.
Bruno Le Maire, la question de l'instauration d'une deuxième journée de solidarité se repose à la veille du lundi de Pentecôte. D'ailleurs, la CFTC souligne sa désapprobation et couvre par un mot d'ordre de grève tout salarié travaillant gratuitement le jour de la Pentecôte, considérant que tout travail mérite salaire. Petit rappel, depuis 2004, une journée travaillée mais non payée. En contrepartie, les employeurs doivent, eux, payer un jour de cotisation sociale en plus à destination de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Seulement 3 à 4 salariés sur 10 travaillent réellement le jour de la Pentecôte parce que finalement, les entreprises peuvent s'adapter, offrir cette journée, supprimer un jour de congé ou remplacer la Pentecôte par un autre jour férié travaillé. C'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui a émis l'idée d'instaurer une seconde journée de solidarité et il faut le préciser pour apprécier la suite, le gouvernement d'Édouard Philippe a augmenté la CSG des retraités. Alors, quelle efficacité prêter à une deuxième journée de solidarité? Charlotte Baris a sollicité Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE.
Si on veut des recettes de cotisations sociales en plus, pouvoir financer des risques ou financer des branches de l'assurance maladie ou de l'assurance sociale. Donc là, effectivement, on sait que la suppression d'un jour de congé, un jour chômé ou un jour férié, va rapporter de l'ordre de 2 milliards d'euros. Maintenant, ça consiste à augmenter les prélèvements sur les salariés. Donc c'est une mesure qui va dans le sens complètement inverse de la mesure qui avait été mise en place en baissant les cotisations sociales salariées et en augmentant la CSG, donc en transférant du pouvoir d'achat des retraités vers les actifs. Là, en fait, on réalise l'opération inverse. On prend du pouvoir d'achat aux actifs pour le donner, alors non pas nécessairement aux retraités, mais pour le donner aux dépendants, même pour une journée. Je veux dire, c'est... Alors après, il y a des ordres de grandeur qui sont pas les mêmes. Donc évidemment, on reprend pas tout ce qu'on a donné par la baisse des cotisations sociales, mais on peut concevoir que le message est pas très clair. C'est-à-dire, la suppression du lundi de Pentecôte et sa transformation donc en n'importe quel jour de congé ou de RTT avait été assez peu populaire et assez peu comprise. Mais là, dans le contexte actuel, ça risque de l'être encore plus parce que ça va dans le sens inverse des messages qui ont été donnés par le gouvernement.
L'économiste Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, la météo de demain lundi, temps changeant sur l'ensemble du pays, hésitant entre soleil et passages nuageux, parfois porteurs d'averses. Dès le matin, des ondes plus éparses se sont observées sur le reste de la moitié sud et près de la frontière belge. Demain matin, il fera entre 8 et 12 degrés en général, 13 à 16 degrés en bord de Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, la technique Bruno Gagnère-Fontanille.